France Culture.
Le journal Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. L'ONU appelle à soutenir le plan de paix de Donald Trump pour Gaza et pourtant le président américain n'a jamais vraiment fait confiance aux Nations Unies pour trouver une solution négociée. Les explications de Jérémy Lange dans un instant. La Russie interdit l'un des derniers partis politiques démocratiques du pays, le parti Initiative Civique, une formation assez discrète mais son existence même était insupportable pour le Kremlin. Sylvain Tronchet a suivi l'audience d'interdiction à la Cour suprême russe. La Nouvelle-Calédonie au bord du gouffre économique. Le produit intérieur brut de l'archipel a plongé de 13,5% l'an dernier. Conséquence des émeutes et de l'incertitude politique sur l'avenir du territoire. Le décryptage de Stéphane Robert dans ce journal. Alexa, Cortana, Diela, pourquoi les intelligences artificielles sont-elles à ce point féminisées? Il y a même en Albanie une ministre en charge des marchés publics générée par l'IA. Une enseignante en marketing éthique relance le débat. Nous verrons cela avec Éric Chavroux. Le Hamas expira en enfer s'il rejette le plan de paix pour Gaza. Donald Trump menace la milice islamiste à qui il donne 3 à 4 jours pour répondre à son plan présenté hier à la Maison-Blanche avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. En échange d'un retrait progressif de l'armée israélienne, le président américain veut démilitariser le Hamas qui doit libérer les derniers otages retenus à Gaza. Le plan Trump qui semble enterrer la solution à 2 États. Et d'ailleurs, Benjamin Netanyahou a expliqué aujourd'hui qu'il n'avait pas du tout accepté le principe d'un État palestinien. En tout cas, le chef de l'ONU, Antonio Guterres, appelle ce soir toutes les parties à accepter le plan. Et pourtant, Jérémy Lange, les Nations Unies n'ont pas été associées à la rédaction du document.
Avec le Croissant-Rouge et d'autres institutions, l'ONU doit s'occuper de distribuer l'aide humanitaire, est-il écrit, sans ingérence des deux parties au conflit. Sur le papier, cela correspond exactement à la mission des Nations Unies, sauf que depuis le début de la guerre, cette mission est mise à mal et par Israël qui refuse l'entrée à Gaza de la plupart des camions d'aide, et par la très décriée Fondation humanitaire de Gaza. Plus d'un millier de Palestiniens sont morts pendant l'une de ces distributions. Mais si on demande son aide, l'ONU répondra bien évidemment présente, affirme le porte-parole des affaires humanitaires. Jens Lark.
Je pense qu'on a tous regardé le direct de la conférence de presse à la Maison-Blanche et je n'ai vu personne des Nations Unies là-bas. Donc je ne peux rien dire du contenu du plan de paix. Ce que je peux dire en revanche, c'est que bien sûr, l'ONU est capable et se tient prête à augmenter l'aide humanitaire à Gaza.
Les humanitaires sont en fait coincés. Sans appui américain, ils savent qu'ils n'ont aucune chance de pouvoir augmenter le volume de l'aide, alors que la famine s'est emparée de Gaza et que Washington a coupé les vivres de plusieurs agences de l'ONU. Mieux vaut donc ne pas froisser encore plus Donald Trump. Ce soir, le patron de l'ONU, Antonio Guterres, appelle toutes les parties à accepter le plan de paix.
Jérémy Lange, correspondant de France Culture à Genève, le siège des agences humanitaires de l'ONU. L'avenir du plan Trump est désormais suspendu à la réponse du Hamas. Selon le ministre qatari des Affaires étrangères, les négociateurs de la milice ont promis de l'étudier de manière responsable. Le Qatar, qui organise ce soir à Doha une réunion avec le Hamas, en présence aussi de l'Égypte et de la Turquie, qui ont envoyé sur place les chefs de leurs services de renseignement. Quelques heures après avoir présenté son plan pour Gaza, Donald Trump s'est adressé aux principaux chefs militaires américains. Le ministre de la Défense, Pete Hegseth, avait convoqué les généraux et les amiraux de l'US Army et de l'US Navy sur la base de Quantico en Virginie. L'occasion pour le locataire de la Maison-Blanche de prononcer un discours d'une violence politique inouïe. Donald Trump a notamment appelé les chefs militaires à combattre l'ennemi de l'intérieur. Et Pete Hegseth n'était pas en reste pour recadrer ses troupes. Le récit d'Isabelle Labéry.
Pete Hegseth ne veut plus voir dans l'armée ni barbe, ni cheveux longs, ni personne en surpoids, ni transgenre. Les tests d'aptitude seront obligatoires 2 fois par an. La formation initiale impitoyable. Nous entraînons des guerriers, pas des défenseurs, dit le chef du Pentagone dans un discours aux accents virilistes. Chacun devra donc répondre aux plus hauts standards d'excellence masculine.
Comme l'a dit le président, nous sommes en train de faire le ménage. Pendant trop longtemps, nous avons nommé trop de responsables en uniforme pour de mauvaises raisons, sur la base de leur race, de quotas de genre ou de prétendues premières historiques. L'ère du politiquement correct et de la sensibilité excessive est terminée. Soit vous répondez aux critères physiques requis pour le combat, vous pouvez faire le travail, vous êtes discipliné, en forme et entraîné, soit vous dégagez. Une guerre de haute intensité n'existe pas sans douleur et sans tragédie humaine.
Cette guerre est aussi dirigée contre l'ennemi de l'intérieur, complète Donald Trump, qui s'en prend une fois de plus aux immigrés illégaux et aux médias, avant de tenter, sans succès, de faire rire l'assistance. D'anciens responsables militaires se demandent si ces prises de parole justifiaient de dépenser plusieurs millions de dollars pour faire venir en urgence des militaires en poste dans le monde entier.
Isabelle Labéry, correspondante de France Culture aux États-Unis. La liberté chahutée aux États-Unis pendant qu'elle est carrément muselée en Russie. Nouvelle illustration aujourd'hui avec le sort réservé à l'un des derniers partis politiques libéraux, c'est-à-dire démocratiques du pays. Le parti Initiative Civique a été définitivement dissous sur décision de la Cour suprême russe. Initiative Civique était notamment le parti de Boris Nadiejdine, qui avait tenté de se présenter à la dernière présidentielle comme candidat anti-guerre et anti-Poutine, avant d'être disqualifié par la commission électorale. Alors ce parti n'était ni très puissant, ni très implanté, mais son existence était manifestement insupportable pour le Kremlin, qui a donc décidé de le liquider. Notre correspondant à Moscou, Sylvain Tronchet, assistait à l'audience devant la Cour suprême.
En une heure et demie d'audience et devant une poignée de militants désabusés, la justice russe vient donc de liquider le parti politique qui avait tenté de présenter le seul vrai candidat d'opposition à la dernière présidentielle. Boris Nadiejdine avait suscité un véritable espoir chez les démocrates russes avant d'être disqualifié. Son parti vient d'en payer le prix, estime son président, l'ancien ministre de Boris Yeltsin, Andrei Nechayev.
Malheureusement, cette décision était prévisible. J'ai dit à la Cour que c'était avant tout politique. Nous sommes persécutés en raison de notre situation d'opposant. Le dernier événement en date, ces files d'attente de plusieurs kilomètres pour venir apporter des signatures en faveur de notre candidat Boris Nadiejdine, a apparemment profondément effrayé les autorités qui ont pris cette décision.
Ces dernières années, Initiative Civique n'arrivait même plus à participer aux élections. Ses candidats étaient la plupart du temps éliminés, disqualifiés avant même les scrutins par les commissions électorales, ce qui a permis au ministère de la Justice de demander sa dissolution parce qu'il ne présente pas de candidat. Un engrenage kafkaïen symbolique du climat de la Russie de 2025. Dans le camp des démocrates, il ne reste plus qu'un parti, Yabloko, survivant de l'ère Yeltsin, très discret parce que lui aussi dans le viseur du pouvoir.
Sylvain Tronchet à Moscou. Le gouvernement tchèque va limiter l'entrée des Russes sur son territoire, mesure qui concerne les citoyens russes munis de passeports diplomatiques ou de visas d'affaires. Prague invoque des préoccupations de sécurité alors que le pays vote ce week-end pour des élections législatives incertaines. La République tchèque est le premier pays de l'Union européenne à imposer ce type de restrictions aux ressortissants russes. Imaginez un pays presque entièrement privé d'Internet. C'est ce qui arrive aujourd'hui à l'Afghanistan des talibans. Depuis hier soir, les connexions sont quasiment coupées pour les téléphones et les ordinateurs. Résultat, les Afghans n'ont plus accès à tous les services en ligne. L'ONU redoute des répercussions extrêmement graves sur les droits humains. Les femmes et les filles afghanes, déjà exclues de la vie publique, sont particulièrement touchées, alertent les Nations Unies. Louise Baudet, bonsoir.
Bonsoir Stanislas.
Cette coupure d'Internet n'a rien à voir avec un quelconque problème technique sur le réseau afghan.
Effectivement, le motif n'est pas officiellement avancé, mais il fait peu de doutes. C'est pour prévenir le vice et la corruption morale que les talibans ont coupé les connexions. Raison invoquée au début du mois pour justifier l'interruption du haut débit dans plusieurs provinces du pays. Cette fois, la totalité du territoire est presque entièrement coupée du monde. Pas d'internet, pas de téléphonie mobile. Les deux réseaux utilisant les mêmes lignes à fibre optique. Une première depuis le retour au pouvoir des talibans il y a 4 ans. Depuis hier, les systèmes bancaires sont paralysés, les retraits d'espèces impossibles, les Afghans de l'étranger ne peuvent plus envoyer d'argent à leur famille. Tous les vols sont par ailleurs annulés à l'aéroport de Kaboul, alors que le pays peine à se remettre du séisme qui l'a frappé au début du mois et a causé la mort de plus de 2000 habitants. Et puis, cette coupure marque évidemment une escalade de la censure. Internet est le seul espace de critique du régime. C'est aussi une rare source de divertissement et d'information dans le pays. C'est enfin l'unique moyen pour les femmes de contourner l'interdiction d'étudier et de travailler via les cours en ligne et le travail à distance.
Louise Baudet de la rédaction internationale de Radio France. Un an et demi après les émeutes du printemps 2024, l'économie de la Nouvelle-Calédonie est en train de s'effondrer. Selon des chiffres officiels, le PIB, le produit intérieur brut néo-calédonien, a chuté de 13,5% l'an dernier, soit la pire récession dans l'archipel depuis plus de 50 ans. Stéphane Robert, bonsoir.
Bonsoir Stanislas.
Les négociations sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie sont aujourd'hui dans l'impasse et cette incertitude politique pèse sur l'économie du territoire.
Oui, le recul du produit intérieur brut de l'archipel la calédonien est massif. On est passé d'un peu plus de 9 milliards d'euros l'année précédente, en 2023, à 7 milliards et 900 millions d'euros en 2024. À cela, il faut ajouter les dégâts générés par les émeutes, évalués à près d'un milliard d'euros. On estime que 20% de l'emploi privé a été détruit, ce qui fait que des milliers de personnes se retrouvent au chômage et sont aujourd'hui sans ressources, car les indemnisations au titre du chômage en Nouvelle-Calédonie sont versées pendant 9 mois, et ensuite c'est terminé, il n'y a pas de RSA ou autre minimum social. C'est la raison pour laquelle les autorités enregistrent de plus en plus de cambriolages de la faim. Les gens volent dans les magasins pour se nourrir. Ajoutez à cela que de très nombreux personnels de santé ont quitté l'archipel. Dans de nombreux endroits, il n'y a plus de médecins. Les touristes ont déserté et ne sont pas prêts de revenir. Les transports en commun, faute de financement, sont réduits au strict minimum. À Nouméa en particulier, il n'y a plus que 8 lignes de bus desservies contre une trentaine auparavant et le prix du ticket a doublé. Il faut encore noter que l'industrie du nickel, véritable poumon économique, est sinistrée, avec une usine, l'usine du Nord, qui a fermé, et les deux autres qui tournent au ralenti. Pour le reste, de nombreuses entreprises n'ont toujours pas relancé leur activité. Beaucoup d'entrepreneurs soit sont déjà partis, soit hésitent à réinvestir compte tenu de l'instabilité politique. L'accord de Bougival décroché mi-juillet par Manuel Valls offrait une perspective de stabilité sur plusieurs années, mais il n'est pas sûr qu'il puisse être mis en œuvre. D'une part parce qu'il est fragilisé, ayant été dénoncé par les indépendantistes du FLNKS, et parce que le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, après la chute du gouvernement Bayrou, est aujourd'hui un ministre en sursis.
Stéphane Robert, merci. Quel avenir pour Carmat, le fabricant français de cœurs artificiels? Le tribunal des affaires économiques de Versailles se prononcera le 14 octobre prochain sur une requête en liquidation judiciaire, car la société, qui emploie 138 salariés, est d'ores et déjà au bord de la faillite faute de repreneurs. En 2013, Carmat avait mis au point le premier cœur artificiel au monde. Depuis, une vingtaine de patients ont été transplantés. Antoine Boucher, bonsoir.
Bonsoir.
Il y avait bien une offre de reprise sur la table, celle du président du conseil d'administration de Carmat, Pierre Bastide. Mais le tribunal, Antoine, a constaté aujourd'hui que cette offre était caduque.
Oui, l'entreprise avait communiqué dès hier sur les difficultés du repreneur potentiel, expliquant qu'il n'avait pas été en mesure de confirmer son offre, faute d'avoir sécurisé les financements nécessaires à la reprise. La reprise dont la somme était estimée à 150 millions d'euros. Plus d'offres sur la table donc, a constaté le tribunal cet après-midi, mais il a toutefois laissé un répit de 15 jours à l'entreprise avant une nouvelle audience sur une éventuelle liquidation. Malgré le sursis, la disparition de l'unique offre de reprise a tué les derniers espoirs de ce membre du CSE de Carmat qui souhaite rester anonyme.
Forcément, on est quand même assez attristé. Hein. C'est tellement qu'on puisse dire. Hein. C'est un projet exceptionnel qui va s'arrêter. On sait que le projet est terminé, quoi. Donc, ce qu'on espère, c'est qu'il y ait un bon suivi des patients qui soient implantés. Donc ça, visiblement, ça a l'air d'être pris en charge.
Alors sur les 130 salariés, seuls 3 devraient être conservés pour accompagner la vingtaine de patients transplantés qui bénéficient encore d'un cœur Carmat. Mais tant que la liquidation judiciaire n'a pas été prononcée, aucun plan de licenciement ne peut être officiellement annoncé. Au sortir de l'audience, le directeur général de l'entreprise, Stéphane Pia, veut encore croire à un sauvetage de la dernière chance, lui qui a multiplié les sollicitations auprès des grandes fortunes du pays ces derniers jours.
On est dans une situation de levée de fonds compliquée pour l'innovation de rupture et la seule solution, maintenant, il n'y a que quelqu'un, oui, avec des poches profondes, dise « ouais, bon, je rentre dans le jeu et je vais faire une offre ». On pense toujours aux familles les plus connues, hein, les Hermès et compagnie, pourquoi pas, je pense que ce serait une très bonne idée. On a sauvé Notre-Dame, on peut sauver Carmat, hein.
Alors Carmat a maintenant rendez-vous le 14 octobre pour sa requête en liquidation judiciaire.
Explication signée Antoine Boucher. Depuis 15 jours maintenant, 12 militants du suicide assisté comparaissent devant le tribunal de Paris, membres de l'association pro-euthanasie Ultime Liberté. Ils sont jugés pour avoir aidé plusieurs dizaines de personnes à acheter sur internet du pentobarbital, un barbiturique qui entraîne une mort rapide et sans douleur. À la barre cet après-midi, le philosophe André Comte-Sponville, Thionville. Venu témoigner à la demande de l'un des prévenus, le docteur Bernard Senet, André Comte Sponville, qui a défendu une vision très libérale de la fin de vie. Le compte-rendu d'audience d'Anne Fauquemberg.
André Comte Sponville n'a jamais rencontré Bernard Senet, mais il y a 25 ans, il avait accepté d'écrire une postface pour un livre d'une responsable de l'Association pour le droit à mourir dans la dignité, qui était consacré à ce médecin militant de l'aide à mourir depuis 40 ans. « Je souhaite rester vivant et libre jusqu'au bout. La mort volontaire fait partie des droits de l'homme », déclare d'emblée le philosophe de 73 ans. Avec pédagogie, il rappelle que la quasi-totalité des philosophes de l'Antiquité partageaient cette idée, même les stoïciens et les épicuriens qui n'était d'accord sur rien. Il cite aussi cette phrase de Montaigne « Le plus beau cadeau que la nature nous ait fait, c'est de nous avoir laissé la clé des champs. Comme je suis libéral, je ne vois pas de quel droit l'État m'interdit de mettre fin à mes jours. Alors oui, j'ai effectivement le droit de me suicider, mais je fais comment si je n'ai pas d'armes chez moi ?» Il rappelle l'exemple du philosophe Gilles Deleuze qui, à 70 ans, souffrant d'une grave insuffisance respiratoire, s'était jeté du 5e étage de son appartement. « Alors il faut mener deux combats à la fois », explique André Comte Sponville à la présidente, « autoriser le suicide assisté et combattre le suicide en soignant les dépressions, car il ne s'agit pas de mettre la mort en vente libre dans les pharmacies », précise-t-il. « Comment expliquez-vous la réticence de la République française ?» demande une avocate côté défense. Le poids de la religion, mais aussi la résistance du corps médical. Il faut que la loi prévoie une clause de conscience, comme pour l'avortement. Puis il s'étonne. L'avortement constituait un problème moral beaucoup plus compliqué que l'euthanasie volontaire. Je pense que les femmes se sont mieux battues que les vieillards.
Anne Fauquemberg, depuis le palais de justice de Paris. Elle s'appelle Alexa, Cortana, Diella. Ce sont parfois des actrices comme Tilly Norwood. Leur point commun, ces femmes ont toutes été générées par l'intelligence artificielle. Les IA se conjuguent très souvent au féminin, comme Diella, cette ministre virtuelle en charge des marchés publics en Albanie. Éric Chavroux, bonsoir.
Bonsoir Stanislas, bonsoir à toutes et à tous.
Cette féminisation a déjà suscité des critiques par le passé et une enseignante en marketing éthique relance aujourd'hui le débat.
Dès 2019, l'UNESCO alertait sur, je cite, « la soumission féminine de Siri et la servilité exprimée par tant d'autres assistants numériques ayant l'aspect d'une jeune femme, soit, selon l'institution, une illustration flagrante des préjugés sexistes véhiculés par les produits technologiques ». En 2021, Apple avait d'ailleurs fait marche arrière, laissant le choix pour sa version américaine.
« Hi, I'm Siri. Choose the voice you'd like me to use. »
Hi, I'm Siri. Choose the voice you'd like me to use.
Mais pour Sylvie Borreau, professeure de marketing éthique à l'école de commerce TBS Éducation de Toulouse, la nomination il y a quelques jours d'une ministre virtuelle en Albanie a de quoi inquiéter.
Cette humanisation et cette féminisation, elle donne l'illusion d'une humanité. Et elle va, à travers cette illusion, rassurer. Séduire. Là, en l'occurrence, ils ont utilisé en fait les traits d'une actrice albanaise connue. En faisant cela, eh bien, ils vont rendre la machine plus acceptable. Et en augmentant son adoption, on peut augmenter les risques de manipulation. Parce que les femmes sont perçues en moyenne comme plus morales, plus empathiques, plus susceptibles en fait de ressentir des émotions. Et ces qualités, en fait, elles font défaut aux machines, aux algorithmes. Le deuxième problème, c'est l'objectification. La femme devient une machine. Donc c'est totalement déshumanisant pour les femmes. Et puis après, les stéréotypes, bien sûr, à l'appel. Hein.
Sylvie Borreau, qui a alerté en ligne sur le site de The Conversation, regrette au passage notre usage désormais acté du terme « intelligence » pour l'IA, et elle préconise des représentations qui ne soient plus anthropomorphiques, au moment où l'on s'interroge toujours davantage sur les liens intimes que nous pouvons entretenir avec les IA et avec, dernier épisode en date, une actrice entièrement virtuelle qui dit ressentir des émotions bien réelles.
Éric Chavroux, merci. À propos de Tilly Norwood, cette première comédienne IA qui fait trembler Hollywood, vous pouvez écouter ou réécouter sur notre site la chronique de ce matin de François Saltiel, Un monde connecté. Une nouvelle grève au journal Le Parisien aujourd'hui en France, la deuxième en une semaine. Le mouvement a débuté aujourd'hui, il doit se poursuivre jusqu'à demain soir minuit. Les salariés grévistes du quotidien demandent à la direction de respecter ses engagements en matière d'embauche. gauche. Il rejette aussi l'éventuelle vente du Parisien au groupe Bolloré, un projet qui pour l'instant n'a pas été confirmé. Cette dernière information, en République démocratique du Congo, l'ex-président Joseph Kabila vient d'être condamné à mort par contumace pour trahison. On y reviendra dans notre prochain rendez-vous d'actualité à 19h. Le temps demain, toujours du soleil grâce aux conditions anticycloniques, du soleil mais aussi des brouillards le matin sur la plupart des régions. Sur le pourtour méditerranéen, le ciel se chargera en cours de journée, il pleuvra dans l'après-midi. Demain matin, il fera entre 2 et 11 degrés en général. L'après-midi, le thermomètre oscillera entre 16 et 27 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun, à la technique Éric Perruchot-Triboulet.